Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Nous retrouvons cette semaine Bernard Michon, maître de conférence à l'Université de Nantes et membre du CRHIA, et Éric Noël, professeur en histoire moderne à l'Université des Antilles. Bonjour.
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 Alors cette semaine, nous allons parler des populations dites de couleur dans la France de l'époque moderne, 18e siècle, car notre invité, donc Éric Noël, vous dirigez une publication de grande ampleur sur le sujet.
Éric Noël, notre invité, hein, depuis plusieurs émissions, je le rappelle, est membre du laboratoire d'archéologie industrielle, histoire, patrimoine, géographie, développement, environnement de la Caraïbe. Il dirige depuis longtemps, hein. Le premier volume a été publié en 2011, c'est un travail de longue haleine, un dictionnaire des gens de couleur dans la France moderne, fin du 15e, 1792. Le premier volume a été publié en 2011 chez Droz, hein, qui est votre éditeur. Ce premier volume évoquait Paris et son bassin. Un deuxième volume, édité en 2013, traitait de la Bretagne. Et au mois de mai 2017, paraîtra le troisième et dernier volume de ce dictionnaire qui portera sur le sud de la France. Vous l'avez intitulé « Le Midi ».
Il y a eu effectivement un choix qui a été celui d'une partition géographique et qui s'explique assez logiquement par le fait qu'on a très vite observé un regroupement des gens de couleur dans des espaces géographiques bien ciblés. En l'occurrence, les gens de couleur arrivaient d'abord dans les ports. C'est une logique d'arriver par Nantes, par Bordeaux, qui se sont taillés la part du Lyon, si on peut dire. Mais au fil du XVIIIe siècle, on remarque que des villes portuaires où ils n'avaient pas forcément les meilleures conditions de vie, eh bien, beaucoup de ces gens de couleur, au sens large, qu'ils aient été noirs, mulâtres, voire indiens, eh bien, ont cherché à évoluer dans la France métropolitaine et ont bien senti que vers Paris se trouvait la route de la liberté, au sens où les villes de l'Ouest avaient souvent adopté des choix juridiques particuliers qui rappelaient les îles, et notamment une espèce de parenthèse servile en vertu de lois qui aggravaient leurs conditions. Et le Parlement de Paris avait refusé cela dans son ressort, ce qui fait que Paris sauvegardait cette liberté et qui explique que petit à petit au fil du siècle, j'ai eu une longue discussion avec mon collègue Pierre Boulle à ce propos, on est arrivé à se demander mais quel est l'endroit où ils étaient le plus nombreux. Alors ils ont été longtemps plus nombreux dans les ports et ils sont finalement plus nombreux dans la capitale en vertu de cette évolution. Voilà, donc de là un choix qui a été Paris et son bassin, le premier tome, et les deux suivants donc dans les deux ports de l'Ouest avec autour d'eux les provinces qui en dépendaient. C'est très important de le souligner. Je peux peut-être évoquer effectivement les différences entre les trois tomes à ce niveau. Paris a attiré donc tardivement, mais a attiré une élite de couleur, au sens où ceux qui, devenus libres, parvenaient à Paris, suivaient souvent une grande famille qui pouvait les protéger d'une certaine façon. Ils pouvaient aussi s'en émanciper, c'est-à-dire de la domesticité de luxe, voire d'un artisanat élaboré, hein, au service d'une grande famille. Eh bien, ils pouvaient se mettre tout simplement à leur compte et devenir des particuliers, devenir des maîtres de métier. Et l'observation qu'on peut en faire, c'est au moment de la Révolution française, lorsque les libres de Paris, gens de couleur, ont fondé une société pour obtenir les droits pour eux-mêmes au plan politique et leurs frères des îles. Dans les villes de l'Ouest, la situation est différente. En Bretagne, on a 9 dixièmes des gens de couleur qui sont des esclaves. 9 dixièmes qui sont des esclaves. Les lois de 1716, de 1738 ont aggravé sous l'influence des Nantais. Le premier d'entre eux a été Mélier, maire de Nantes, qui a impulsé un renversement juridique acclimatant l'esclavage, on peut le dire, en France métropolitaine, dans cette Bretagne. Et il y a d'autres ports, il y a Saint-Malo, il y a Lorient, il y a même Brest, finalement. Et c'est ainsi qu'en termes de nombre, on a plus de 7000 Noirs qui ont pu être repérés dans la Bretagne du XVIIIe siècle.
On l'a vu, l'esclavage était interdit sur le territoire de la métropole française. Vous êtes en train de nous dire l'inverse, qu'il était entretenu ?
Qu'il était toléré et même silencieusement encouragé. Au sens où chaque parlement pouvait décider dans son ressort de situations qui font que de Bretagne, de Guyenne, donc de Nantes et de Bordeaux, sont parties des dispositions législatives qui ont été entérinées localement En 1716, on permet pendant un an le séjour d'un esclave sur le sol de France, sous condition bien sûr de retourner aux Antilles. Il peut servir son maître pendant son voyage si c'est un colon qui fait un séjour pour que le maître puisse être servi. Et il peut apprendre un métier qui servira ultérieurement aux îles. La loi permet ensuite 3 ans. En 1738, le temps nécessaire pour une vraie formation de maître tonnelier, maître charpentier et sucrier aussi, puisqu'il y a des raffineries dans les ports de l'Ouest. Et donc, on trouve dans les contrats des notaires nantais et bordelais ces situations. Et le volume actuel le vérifie, puisque je travaille actuellement, et le travail est terminé, puisque le livre sort au mois de mai, les ports du Midi de la France ont finalement suivi Bordeaux, mais même Marseille, qui a finalement choisi le virage atlantique assez tardivement. Et j'ai parlé bien sûr de 7000 noirs en Bretagne. On en a le même chiffre, et même un petit peu plus de 8000 pour le Midi de la France. Bordeaux arrive en tête avec 5000. C'est un petit peu moins que Nantes, mais c'est tout de même 5000 noirs et gens de couleur. Bordeaux dépasse La Rochelle, qui arrive tout de même avec un millier d'esclaves et de gens de couleur au sens large. Je remercie au passage Olivier Caudron d'avoir fait tout ce travail de dépouillement pour La Rochelle, puisque c'est à lui que revient cette part. Et il y a Marseille, qui a tout de même eu 600 passages de noirs et de gens de couleur. Il y a eu l'époque du Levant, de l'Afrique du Nord, et il y a aussi celle des îles à la fin du XVIIIe siècle, avec la même situation.
Si je résume, en fait, derrière le terme gens de couleur, donc il y a à la fois les libres de couleur, les esclaves, et toutes les personnes dites non blanches, et ces personnes sont répertoriées dès qu'elles arrivent sur le sol métropolitain, d'où le fait qu'on ait des chiffres.
Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup.
Ouais.
Petit, petit, je l'aime beaucoup.
Petit pays, je voulais te dire deux mots. Je te parle en ami, vu qu'on se connaît depuis le berceau. Je t'aime bien. Mais laisse-moi juste te dire que parfois tu délires. Et souvent tu fais pire. T'as 60 millions de gosses à assumer. Des petits anges, des petits diables. Ça fait un paquet de monde pour dîner. Je comprends que parfois, à table, tu pètes un câble. Petit pays, tout le monde te dit que tu déconnes. Quand tu les laisses dormir dehors alors que c'était mauve. La rumeur court sous les ponts et sur les trottoirs. Il paraît qu'ils portent ton nom et que tu veux pas les voir. Ton histoire est bien plus que celle d'une vie. Tu ne comptes plus les erreurs que t'aimerais oublier. Alors trop souvent, tu simules l'amnésie. Et comme mes frères et sœurs, je continue de t'aimer.
Petit pays, je t'aime beaucoup.
Ouais.
Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Éric Noël.
Éric Noël, nous allons maintenant recentrer notre attention sur le port de Nantes, principal point d'entrée pour ces populations de gens de couleur en métropole. Au XVIIIe siècle, peut-on estimer le nombre de Noirs et autres gens de couleur qui sont passés par le port de Nantes?
On peut maintenant les estimer, effectivement. Alors, il y a deux chiffres à donner, je pense, qui sont un premier, celui de la veille de la Révolution, lorsque, dans le durcissement législatif, on a voulu compter pour pouvoir renvoyer. Et partant de là, en 1777, la police des Noirs a été instituée à l'échelle de toute la France pour opérer un véritable recensement qui a abouti à compter 700 Noirs pour la ville de Nantes présents physiquement. Ça a été assez compliqué. Les Nantais ne voulaient pas livrer nominativement les noms des personnes parce qu'ils allaient y perdre quelque chose et ils y voyaient une intrusion du pouvoir central. Mais on a ce chiffre qui peut être soutenu par justement le second que je vais amener, c'est-à-dire les entrées enregistrées dans les amirautés. Et l'amirauté de Nantes a très tôt ouvré en ce sens. Et à l'échelle du siècle, et ça a été le travail qui ressort de ce dictionnaire dans ce tome 2, 5900 Noirs et gens de couleur ont été recensés à l'échelle du siècle, qui sont donc passés par le port de Nantes, parfois restés quelques jours seulement et parfois restés toute une vie.
Et que faisaient ces personnes installées qui vivaient à Nantes ?
Alors, ces personnes installées qui vivaient à Nantes avaient suivi un maître dans la plupart des cas et du coup vivaient dans l'ombre de ses maîtres.
Pour alors, les personnes esclaves.
Tout à fait. Oui, je le rappelle effectivement, les 9 dixièmes étaient esclaves et sont restés bien souvent dans ce statut puisque précisément les dispositions du Parlement de Bretagne allaient tout à fait en ce sens. Et on n'a pas les grands procès comme on a à Paris intentés par des esclaves contre leurs maîtres, tout simplement parce que n'existant pas juridiquement, c'était très difficile de se porter en justice et ça ne pouvait se faire que par un intermédiaire. On a une histoire qui a été étouffée dans l'œuf, hein, elle est assez célèbre, de Catherine Morgan, dite Catin, et amenée par son maître après avoir été rendue enceinte par le capitaine du navire qui l'avait amenée. Ses plaintes n'ont abouti finalement qu'à la renvoyer vers Saint-Domingue avec sa progéniture pour être vendue au marché du Cap-Français. Voilà, donc c'est une non-affaire finalement. Alors tous ne subissent pas ce sort, mais la plupart du temps sont donc, on le sent, dans la domesticité des grandes familles. Mais Nantes offre ceci de particulier qu'elle est un port et que beaucoup ont été amenés aussi à travailler comme apprentis pour des métiers qui pouvaient servir le port et aussi les îles. Là où on trouvait des contrats d'apprentissage, c'était pour des tonneliers, pour des charpentiers, pour des gens qui pouvaient servir ici, mais qui pouvaient servir parce que les tonneaux servent aussi pour mettre les sucres dans les îles.
Éric Noël, peut-on appréhender la manière dont ces populations de gens de couleur étaient perçues par les Nantais à l'époque ?
Alors, on peut l'apprécier effectivement avec une certaine difficulté parce que tout le monde ne s'est pas exprimé sur ces questions. Et d'ailleurs, au passage, Bernard, vous aviez apporté une contribution très intéressante à ce colloque l'année dernière sur un regard justement d'élite nantaise au sens où les élites écrivent. Donc, on a des points de vue d'officiers. On a des points de vue d'armateurs même, on a une famille Monneron qui a écrit à ce sujet, donc on a des témoignages. Là où on est frustré, Pierre Boulle l'avait souligné, c'est les témoignages des petites gens. Parce que pensait l'ordinaire ? Alors, on peut penser qu'il y avait un certain mouvement d'empathie, peut-être, dès lors qu'on a des mariages mixtes. Et on en trouve jusque dans les registres paroissiaux anciens, avec des unions. Ce qui signifie donc que des noirs ou des gens de couleur émancipés pouvaient, par le biais du mariage, épouser donc des blanches, et on vérifie plutôt les choses en ce sens que dans le sens inverse du point de vue du sexe. Alors, souvent, les mariages montrent des alliances dans le même milieu social, c'est-à-dire avec des domestiques, avec des gens de petites conditions, comme si les livrets de domestiques pouvaient se croiser autant que les maîtres se croisaient au niveau supérieur. Il y a, justement, Guy Sopin l'avait montré dans une petite notice biographique qu'il a rendue sur l'un d'entre eux, Constant. Ce Constant était un petit peu le maître de la petite communauté noire de Nantes. Il est témoin à 4 actes de mariage, donc avec une belle signature qui montre qu'il y avait un milieu qui se connaissait. Et ces mariages portent sur des mariages bien souvent mixtes. Donc, preuve, j'ose dire, d'une certaine empathie, enfin, qu'il n'y avait pas de gêne à aller jusqu'à un mariage, en tous les cas, d'où des descendances.
Donc, pour les libres de couleur, une certaine intégration avec les personnes du même milieu social, c'est ça qu'on peut retenir pour cette époque du XVIIIe siècle. Merci, on va en rester là pour aujourd'hui. Éric Noël, merci de votre participation à ces 4 émissions. On se retrouve la semaine prochaine, Bernard Michon, et nous allons accueillir un nouvel invité, l'historien Marcel Dorigny, auteur de nombreux ouvrages et spécialiste des abolitions. Excellente fin de journée aux auditeurs qui nous suivent. C'était Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la mémoire, avec à la technique José Pasquale.